Et non, nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique numéro 87, septième émission de cette saison 8. Une divergence numérique qui est une émission sur les logiciels libres, le libre. Et cette divergence numérique est placée sous le signe du soleil. Puisque nous aborderons dans la grande partie de cette émission une spéciale journée méditerranéenne du logiciel libre, donc qui va se passer à Nice. Nous aurons par téléphone Véronique Fritière, présidente et chargée de communication de Linux Azure, donc pour nous parler de Linux Azure et de ses journées. Et puis au programme, donc juste avant, ce sera la revue de presse de l'April pour les nouvelles du front. Et puis nous terminerons cette émission avec l'agenda du libre, évidemment incontournable. Merci de nous écouter sur le 93.9 de Divergence FM à Montpellier, puis sur Radio Escapade 104.1, 103.3. Merci aussi aux auditeurs, net auditeurs, qui nous écoutent sur divergence-fm.org, qu'ils soient en Belgique, en Suisse ou au Québec ou ailleurs dans le monde. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur notre chat divergence-fm.org, rubrique chat ou clavardage. Mais tout de suite, ce sont les nouvelles du front.
Les nouvelles du front.
Les nouvelles du front, votre revue de presse hebdomadaire faite par l'April, une association pour la promotion des logiciels libres. Donc Emmanuel Charpentier et Luc Fievier vont nous présenter cette revue de presse de la semaine 45.
Bonjour, revue de presse de l'April, semaine 45 de l'année 2010.
Aujourd'hui, nous allons vous décrire un petit peu le sommaire. Un autre poids lourd pour Linux, la Minute Intello. Adopi, le premier pas vers une dictature. Internet après 15 ans de PHP. Apache, sur le sentier de la guerre. Le retour de la vengeance du peer-to-peer. Le libre a des puces. Le public ne veut plus marcher dans le propriétaire. RMS en tournée aux quatre coins de l'Hexagone. Et les DRM synthétisés par l'April.
Donc, article de Numérama, DRM, l'April publie une synthèse sur les verrous numériques par Julien L. Donc on commence par parler de ce qu'on a fait. Donc un travail mené par l'April qui permet, enfin sur la synthèse, sur les DRM, donc DRM les verrous numériques ou menottes numériques. Donc de quoi s'agit-il, Manu ?
Eh bien, il faudra lire l'article, hein. il n'y a pas de mal, voir même la synthèse écrite par Jeanne Tadeuse, une des nouvelles permanentes de l'association, et qui explique simplement de quoi il s'agit exactement, de quoi les Digital Rights Management font à nos systèmes, à notre informatique, et comment on est bloqué par des choses qu'on installe sur nos environnements. On ne possède plus vraiment ce qu'on utilise, mais il y a des petites briques logicielles qui s'installent à notre insu ou en toute connaissance de cause et qui contrôlent ce qu'on fait avec nos outils.
Donc voilà, donc on est assez content que ce travail ait eu un écho. Donc ça a été également cité sur Clubic, l'April tacle les DRM, sa menotte numérique par Olivier Robillard, et sur IDBooks, DRM, les menottes numériques, donc un article de la rédaction. Les quatre coins de l'Hexagone, hein, on sait bien qu'il y en a six, mais c'est une expression tellement répandue qu'elle nous fait rire. Donc article lepopulaire.fr, le père du logiciel libre, invité surprise hier à Limoges, par Muriel Mingot. Donc il s'agit bien sûr de Richard Stoneman, qui était donc à Limoges récemment, qui a fait une conférence dont il a le secret, où il a parlé logiciel libre et liberté tout court en relation avec la démocratie. Un article intéressant qui rentre vraiment dans le sujet, qui ne fait pas de simplisme ou d'erreur sur le sujet. Voilà donc Richard Stoneman qui est en France, qui fait un tour et qui également fait un débat dimanche dernier.
Alors, le journal du net, un article open source, la Commission européenne se fait taper sur les doigts pour avoir choisi Microsoft. En l'occurrence, un article de la rédaction et qui parle du fait que la Commission européenne s'est trompée lourdement, d'un point de vue politique plus que d'un point de vue légal, simplement en renouvelant un contrat qui portait sur 36 000 de ses ordinateurs, et donc 50 millions d'euros, ce qui n'est quand même pas une paille. Mais simplement, il y a les députés qui se sont un petit peu émus de cette situation quand on pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Microsoft avait été condamné par la Commission européenne à 640 millions de dollars d'amende. Donc là, en l'occurrence, retravailler avec eux, leur refaire des fleurs à hauteur de 50 millions d'euros, ça fait mal au cœur.
Donc effectivement, il y a une petite incohérence à l'idée d'aller acheter quelque chose à quelqu'un qu'on vient de condamner pour des problèmes d'abus de position dominante. Et donc le sujet de la position de ces acteurs publics par rapport aux libres et aux propriétaires, donc avec l'idée de favoriser le propriétaire, on le trouve également dans le Mag IT, donc avec un article qui s'intitule « Bruxelles veut modifier sa politique en matière d'open source » par Cyril Chausson. On parle beaucoup d'open source. Afrique Expansion Magazine, avec un autre article, le logiciel libre au Québec, une reconnaissance officielle, par Kadim Ndiaye. Donc là encore, deux sujets qui ne sont pas directement liés, en tout cas qui ne tapent pas sur Microsoft, mais qui mettent en avant le logiciel libre et le fait que ces acteurs publics se disent qu'il y a quand même quelque chose à jouer.
Avec un peu de chance, on en reparlera plus tard, mais Marseille va peut-être en entendre parler. Il y avait des petits problèmes sur leur marché public, on verra.
Voilà, c'est un sujet en tout cas sur lequel on commence à travailler à l'April. Donc ça, ce sont des sujets très encourageants par rapport à ce qu'on veut faire sur la question des marchés publics. Article de TF1 News, c'est assez surprenant. L'INARO gagne du terrain et démontre les progrès réalisés dans l'accélération du développement open source encore. Donc l'INARO, qu'est-ce que c'est? Moi, j'en avais jamais entendu parler.
Eh bien, j'avoue que moi non plus, j'en avais pas encore entendu parler, mais bon, c'est l'occasion de découvrir un petit peu. C'est un consortium de big, de très gros, genre IBM, Texas Instruments, Samsung, Ericsson, et qui travaille, et c'est très bien, sur du logiciel libre, sur le noyau Linux, en l'occurrence, pour faire en sorte qu'il s'adapte au mieux et qu'il soit plus facilement développé, pour faire des petits systèmes, des systèmes monochip, systèmes sur une puce. On en parle beaucoup, c'est les Android actuels, c'est tous les petites choses qu'on va avoir dans nos systèmes, les décodeurs, la TV numérique, l'informatique mobile, les appareils d'info loisirs, donc sur des systèmes qu'on appelle ARM, et là c'est essentiellement faire en sorte que ce soit plus facile de travailler dessus. Ils ont une centaine de personnes qui bossent sur des outils pour faciliter le développement.
Donc ça fait écho à ce dont on avait parlé la semaine dernière, donc avec la Linux Foundation, qui intégrait des gros acteurs. Il y en a un autre qui arrive à la Linux Foundation, qui est China Telecom, c'est ça?
Alors, effectivement, c'est China Mobile. Donc ça, c'est un article ZDNet.fr, un article de Thierry Noisette. China Mobile adhère à la Fondation Linux, et c'est du même ordre, c'est le même genre de choses. China Mobile, c'est le plus gros opérateur au monde qui gère les communications, les téléphones de ses clients. Et adhérer à la Fondation Linux, c'est une promesse de travail sur du logiciel libre et d'amélioration continue pour en faire profiter toute la communauté. Un article sur écran, site de Libération, LimeWire, chassé le logiciel, il revient au galop, de Camille Gévaudan. Et donc qui explique, LimeWire, c'est un logiciel de peer-to-peer, et qui explique la boîte qui faisait LimeWire a été interdite de sa commercialisation, et en l'occurrence c'est un logiciel libre qui a été repris sous une version bien plus ouverte, bien plus facile à partager, qui s'appelle la Pirate Edition, l'édition pirate, et qui permet de retrouver certaines fonctionnalités qui n'étaient pas forcément dans la version commerciale, et surtout qui assure et qui montre et qui démontre qu'un logiciel libre, on ne peut pas le tuer comme ça. Vous avez accès au code source, vous pouvez le ressortir sous une forme ou sous une autre. Un article de Weblog, W3Blog en l'occurrence, Apache Software Foundation lance un ultimatum à Oracle de Thibault, qui reprend largement ce dont on a déjà parlé dans le passé. C'est toute la guerre entre les géants de type Oracle, Apple, Google, IBM, dans une moindre mesure Microsoft, sur des brevets logiciels, des questions de droits d'auteur, de je te prête des licences pour faire des tests de compatibilité et autres. Et là, en l'occurrence, l'Apache Software Foundation, Oracle vient de lui retirer son droit de passer par les tests de compatibilité Java, car Apache fait une version de Java, et bien Apache a répliqué en disant qu'il ne voterait pas pour les prochaines sorties de Java. Donc il y a un Java 7 qui est en train d'être fabriqué, et bien il se propose de faire un blocage. On va voir si ça continue, en tout cas c'est de la guéguerre, c'est purement parlementaire, c'est un petit peu nul, mais effectivement ils n'ont pas forcément beaucoup de choix en l'occurrence pour répliquer.
Voilà, l'article est intéressant parce qu'il explique bien les motifs et il revient un petit peu sur l'historique de toute cette guerre. Donc quand on n'a pas suivi tout depuis le début, c'est une bonne introduction. Lemonde.fr, Rasmus Lerdorf, PHP a atteint la maturité, un article donc de Damien Leloup. PHP a 15 ans, selon donc, son principal promoteur, c'est maintenant un langage web qui a atteint sa maturité, qui peut faire plein de choses, etc. Donc il s'étend sur le sujet, mais il a d'autres considérations intéressantes également, notamment sur le logiciel libre, où lui considère que le logiciel libre est gagné, qu'il est très majoritaire sur tout ce qui est infrastructure. Et de la même façon, il ne s'inquiète pas du tout sur les questions de neutralité du net qui peuvent être mis en avant chez nous, notamment par Benjamin Bayard de FDN. Pour lui, il n'y a pas vraiment de sujet là-dessus à partir du moment où les gros acteurs comme Google ont besoin d'avoir de la circulation et des gens qui viennent chez eux et qu'à partir du moment où on va bloquer ça, c'est un petit peu suicidaire. Donc voilà, donc une vision assez positive et assez optimiste de l'avenir.
20minutes.fr, un article assez sympathique. Adopi se fait démonter par l'industrie high-tech américaine. Donc par la rédaction en l'occurrence, et qui parle du CCIA, le Computer and Communications Industry Association, donc notamment rebelote hein, les gros, Google, Microsoft, Oracle, Facebook, qui s'inquiète du comportement indésirable que des gouvernements répressifs pourraient utiliser et pourraient mettre en place en se basant tout simplement sur la jurisprudence, sur l'outil Adopi. Adopi, c'est une atteinte à la démocratie, c'est un outil qui peut vraiment faire du mal en fonction des mains dans lesquelles il est utilisé.
Alors dans leur truc, c'est une attaque directe contre la France et contre Adopi en disant que c'est quelque chose de complètement lamentable et qui mène à la dictature en quelque sorte, et que c'est un moyen de rendre, enfin de faire des précédents et de rendre acceptables des politiques de répression, de filtrage et de contrôle. Un article de ZDNet.fr, « Libre et gratuit, le logiciel libre et l'argent » par Patrice Bertrand. Donc, Patrice Bertrand, c'est le directeur général de Smile, qui est un intégrateur, qui fait du libre et qui connaît son sujet. Donc un article assez long, assez complet et assez intéressant sur la question, le troll habituel du « libre n'est pas gratuit ». Et donc il se penche sur la question des sous, de l'argent, du commerce autour du libre, en étudiant ça sous différents angles. Donc il rend dans l'état de considération notamment comme quoi le commerce c'est pas sale et que c'est tout à fait compatible avec le logiciel libre et que les développeurs de logiciels libres, comme les autres, ils ont besoin de manger et que l'idée de rémunérer leur travail n'est pas absurde. Et donc il dresse un tableau très intéressant et très complet et très facile d'accès dans cet article qu'on vous recommande.
Alors, il n'explique pas toutes les manières de faire, les business models, les fameux, mais en tout cas, il en parle et c'est déjà intéressant. Et il se trouve que cette semaine, c'est amusant, mais Talend, qui est une société qui gère essentiellement des gestions de données, eh bien, vient de faire une levée de fonds en bourse et vient de récupérer 34 millions de dollars. Alors, je ne sais pas si on peut parler de business model, mais en tout cas, c'est une grosse somme de fric. Donc, c'est intéressant.
Voilà, pour comment dire, une activité de logiciel libre dont certains disent que c'est une impasse complète. Quand on connaît la tendance de la bourse à être à dilapider son argent, ou en tout cas à pas être intéressé aux bénéfices, c'est quand même un signe assez intéressant sur le fait que c'est pas nécessairement compatible.
Alors, suite à ça, et un petit peu dans cette lignée de réflexion, deux articles de Thierry Crouzet. Un sur son blog, un autre sur OVNI. Donc le premier, c'est la naissance du logiciel libre. Le deuxième...
Donc un article qui s'appelle « Quand on aime la liberté, on n'aime pas la centralisation ».
Donc en l'occurrence, dans le premier, c'est une narration sur son transfert, son passage, lui, Thierry Crouzet, du propriétaire au libre et ses réflexions là-dessus. Donc c'est vraiment une explication assez complète et assez bien explicative, comme quoi il appréciait énormément Microsoft, il était un suiveur de Microsoft, mais finalement... On pourrait dire qu'il a vu la lumière, il est passé au logiciel libre et il en est très heureux.
Voilà, il explique pourquoi, hein, il ne s'agit pas simplement de... Voilà, c'est un article assez long et très intéressant, et ce n'est pas juste quelqu'un qui va dire « vive le pingouin ou vive les gnous », il y a derrière de l'argumentation. Et pareil, beaucoup de réflexions là, plus sur le terrain philosophique, politique du libre. Donc quand on aime la liberté, on n'aime pas la centralisation. Donc il aborde là pas mal de sujets, notamment sur la question de l'anarchie, sur la question des monnaies libres et ce genre de choses.
Des plus intéressants, je vous le recommande. Encore une fois, donc, c'est Thierry Crouzet, vous pourrez certainement trouver juste en cherchant son nom. Il y a vraiment quelque chose à lire.
Voilà, donc c'était une revue de presse assez touffue et assez fournie, avec pas mal de choses à lire, donc bon boulot et bonne semaine.
Au revoir.
Merci Luc Fievier et Emmanuel Charpentier de l'April.org où vous pouvez retrouver cette Revue de presse également sur Dogmazic, la version audio, celle que nous venons d'entendre. Et puis donc, à la semaine prochaine, une petite pause musicale pour s'aérer avec notre fil conducteur de cette semaine, c'est Kuchik Band. Ça, c'est le groupe. L'album, c'est Bon Débarras. Ils sont sous le label Le Chêne Creux en Creative Commons by NCND. Un album fait avec Ardour, avec GIMP et Linux MAO. Tout ça en licence donc Creative Commons by NCND, comme je l'ai dit. Donc, paternité, non commercial, non dérivatif. Un premier album donc, qui nous plonge dans des songes de sons. Des machines molles, des camemberts électriques, des Bernard Minet du roi Crimson, accompagné par quelques amis, entre autres Jao Remson, Sébastien Gramont, Laurent Rochelle et Jérémy Tisser. Cette suite concept album en 9 titres nous balade donc dans les climats des aventuriers du jazz rock progressif des années 70, sans pour autant chercher le cliché, comme ils disent donc sur leur site du label Le Chêne Creux. Le Chêne Creux, tout simplement. Et on va écouter le deuxième titre de cet album, Magdalena.
L'homme venu du fond des âges, l'homme venu du fond des âges.
Oui, tout va bien. Cucci Band avec le titre Magdalena en Creative Commons by NC Andy que l'on peut trouver sur le label Le Chêne Creux. Vous êtes toujours sur Divergence Numérique 93.9 Divergence FM sur Montpellier puis sur Radio Escapade 104.1 103.3. Nous sommes à présent avec Véronique Fritière qui est présidente et chargée de communication de Linux Azure. Bonsoir.
Bonsoir et merci à Divergence FM de bien vouloir parler un peu de nos JM2L et de notre association.
Alors, comme je disais, tu es présidente et chargée de communication de Linux Azure. Peut-être une petite présentation rapide de Linux Azure.
Alors, je suis au conseil d'administration de Linux Azure depuis 5 ans et notre association est née en 1999, donc elle va atteindre ses 12 ans. En quelques mots, elle représente une centaine de membres, personnes physiques, un peu plus de 5 en entreprise, plus de 1000 heures de bénévolat, 5 groupes de travail et environ 5500 euros de budget annuel pour donner quelques chiffres. Elle représente beaucoup d'actions, des rencontres accès libre de Saint-Raphaël à Nice en passant par Grasse et Monsartou, sans oublier Antibes, son siège social. Elle va s'ouvrir sur Valbonne et le Canet. C'est en cours de négociation. Elle donne beaucoup d'ateliers aussi pour permettre aux gens de connaître des logiciels, des techniques, des nouvelles technologies. Elle participe à beaucoup d'événements comme Solution Linux, pour ne pas les citer, les RMLL. Elle organise ses propres JM2L, dont elle vous parlera un petit peu plus tout à l'heure. Et elle essaye de favoriser la relation intergénérationnelle, le partage de la connaissance, l'acquisition du savoir-faire, le partenariat avec beaucoup d'autres associations de la région PACA et même au niveau national. Elle favorise la liaison entre employeurs et candidats à l'emploi. Et elle aide aussi le commerce entre sociétés en mettant en relation des TPE et des multinationales, en passant par les collectivités locales et territoriales. Tous les membres actifs participent à de nombreux congrès, des salons, n'hésitent pas à se bouger eux-mêmes pour essayer de faire vivre l'association dans toutes les villes de la région et d'être en termes de proximité le plus proche de chez l'habitant. Elle espère bien l'année prochaine organiser Libre en fête. C'est en cours de négociation avec ce qu'on appelle chez nous la CASA.
Oui, qu'est-ce que la CASA d'ailleurs ?
La CASA, c'est un regroupement des communes de l'agglomération de Sophia Antipolis qui vont justement d'Antibes à Sophia Antipolis, par exemple.
Ok. Et parmi vos membres, sont-ils tous bénévoles ? Vous avez des permanents peut-être dans l'association ?
Nous sommes tous bénévoles. On donne tous un petit peu d'argent à Linux Azure pour la faire prospérer et on donne tous de notre temps librement. Par pur plaisir,
okay.
Tout simplement.
Et là, les journées méditerranéennes du logiciel libre, JM2L 2010, c'est l'événement majeur pour l'association
C'est un des événements majeurs de l'association. Pour elle, tous les événements sont importants, mais c'est vrai que celui-là a une connotation plus importante que les autres parce qu'il se déroule en un lieu unique sur Sophia Antipolis. Et nous devons énormément mais vraiment énormément à l'école Polytechnis de Sophia Antipolis, qui nous accueille depuis 2004, la première fois en 2004 avec M. Stallman, et maintenant depuis 2005, qui nous accueille simplement nous, qui a compris que nous pouvions être partenaires. Nous bénéficions cette année aussi du parrainage de l'INRIA, qui nous permet de faire un peu plus de choses que prévu, d'avoir un peu plus de conférences, un peu plus de latitude. C'est vraiment une grande chance pour nous.
Et également l'université Nice Sophia Antipolis.
Elle est liée par le biais de Polytechnique, bien sûr, mais ce n'est pas un lien direct.
D'accord.
Hein, pour être franc. Vraiment, nos parrains, sponsors, enfin, peu importe le terme que vous voudrez employer, sont vraiment l'INRIA et Polytech. En complément, bien sûr, pendant les JM2L, nous avons, depuis de très longues années, le concours de l'ESUG et de Plein Sud TV, qui nous suivent avec fidélité et nous aident et font tout ce qu'ils peuvent pour nous amener des partenaires, des fonds qui sont vraiment à notre écoute et dans un système d'entraide comme on aime dans les logiciels libres en général.
Et là, les journées méditerranéennes du logiciel libre, JM2L, donc, se tiennent ces vendredis 26 novembre de 14 à 19h et le samedi 27 novembre, donc le lendemain, de 10h à 19h à l'école Polytechnis Sophia Antipolis.
Oui, c'est 930 route d'école à Sophia Antipolis sur le site des Templiers. Il y a une particularité cette année qui n'est pas mentionnée officiellement dans le programme qu'on vous a donné initialement, mais nous avons les lycéens du lycée de Valbonne qui vont venir dès le matin pour suivre quelques ateliers, entre guillemets, en privé. On veut leur faire connaître l'école Polytechnis, on veut leur faire connaître les locaux, leur faire rencontrer des gens un petit peu dans un cadre plus serein. Ensuite, ils accompagneront les JM2L à partir de 14h quand nous lancerons simplement la séance de
d'ouverture.
Pardon ?
La séance d'ouverture ?
Voilà, tout à fait. Et nous accompagnerons après tout au long des conférences du vendredi. C'est une initiative très bénéfique pour la région parce que c'est la toute première fois que nous accueillons autant de jeunes en même temps. L'estimation actuelle, nous attendons bien sûr d'autres statistiques puisque ça évolue chaque jour. Mais que ce soit au niveau de Polytech ou que ce soit au niveau du lycée, nous amène 120 étudiants. Ce qui est non négligeable par rapport à, bon, sans compter tous ceux qui viendront de leur propre initiative le samedi. Là, je parle uniquement dans le cadre du programme, un peu comme en patinage artistique, le programme imposé. Après, il y aura le programme du libre.
Donc tu disais des conférences, que va-t-on trouver donc, dans ces journées méditerranéennes du libre ?
On a d'une part des conférences, d'autre part des ateliers, on a en plus, comme d'habitude, des install-parties généralistes pour tout public, qui vont du débutant à l'expert, on a une install-partie jeu. Au niveau des conférences et des ateliers, on a plusieurs thèmes. Si on parle des ateliers, on a trois thèmes principaux, multimédia, web, technique. Par exemple, créer un serveur LTSP, la tech, Shell, JavaSchool. JavaSchool est un logiciel développé par l'INRIA. Qui voudrait initier les gens en l'espace d'un clic à l'utilisation d'un logiciel. On passe aussi par l'initiation au développement C, par exemple. On a un thème économique, bien sûr, sur les réseaux sociaux, peut-on vivre
ça sera
libre,
le
recrutement, la création d'entreprises.
Ça sort le vendredi 26 à 15h30, hein, d'après le programme que j'ai sous les yeux.
Peut-on vivre du livre ? Oui, c'est programmé le vendredi à 15h30.
Je vois aussi une conférence.
Recrutement à 17h30.
Je vois aussi une conférence en même temps. C'est ça, il y a trois conférences en même temps. Peut-on vivre du logiciel libre à la même heure ?
Non, on a les réseaux sociaux à 15h30. Ah, et peut-on vivre du logiciel libre à 15h30 en parallèle ?
D'accord.
La création d'entreprise
donc ça, c'est
et
un...
la oui. messagerie collaborative le samedi. Par exemple, pour reprendre le thème économique. Mais on insiste aussi sur le thème éducatif, puisque cette année, on a beaucoup d'adolescents et de jeunes ingénieurs. Hein. Et là, il y a énormément de thèmes qui sont repris au niveau technique. On va de la conduite des missions avec Myoga 2, qui est conduit par Alixen, en passant par Goza ou la géomantique, le langage Perl, les cartes à puces, les systèmes BSD, la 3D dans le web, les robots mobiles, avec Smalltalk bien sûr, de Faro, le projet Debian, les expressions régulières...
Et là, ces conférences sont animées par des intervenants que l'on connaît, locaux, nationaux, internationaux.
Nous avons des gens qui viennent de partout. Nous avons des gens qui sont régionaux, nous avons, on va dire local, nous avons des gens qui viennent de Belgique, nous avons des gens qui viennent d'un peu partout. Hein, j'avoue franchement, on a un peu toutes les régions et toutes les nations qui sont représentées parce que parfois, des gens viennent de s'installer chez nous et viennent en fait d'autres pays. On a plusieurs nationalités. Ce qui n'a pas grande importance en fait dans notre système, dans notre philosophie. Hein. On a des gens qui viennent d'à côté de chez nous, par exemple pour nous présenter Japix, un micro réseau social libre. On a des gens de l'INRIA qui vont nous rappeler comment passer de la machine à laver au robot chirurgical. On a un FAI à taille humaine avec Téléragno. Des CMS, des mondes virtuels, des jeux. Parce qu'il faut bien se souvenir que nous sommes très intéressés par tout ce qui est ludique.
Diffuser la culture du libre aussi, je vois, le samedi. Gilles.
Pardon ?
Gilles, diffuser la culture du libre. Une conférence justement sur la diffusion de la culture libre.
Oui, tout à fait. C'est très important. Oui, samedi à 18h, absolument. Oui.
Avec Armand Germain, donc trésorier de l'association Post-Pro.
Qui sont formidables et qui vont d'ailleurs organiser une très belle journée le 15 janvier à Toulon, à laquelle nous participerons avec grand plaisir. Cette année, nous essayons aussi de donner une dimension plus culturelle et peut-être en même temps plus ludique à nos JM2L, et nous avons invité un monsieur qui s'appelle Patrice Reich, qui est professeur de musique et qui est musicien lui-même, et qui nous donnera un maximum d'informations sur la musique assistée par ordinateur. Quelqu'un de très grande qualité, et dont j'ai plaisir à vanter les mérites.
C'est quelle édition de ces journées méditerranéennes du logiciel libre ?
Nous en sommes à la cinquième. Et encore une fois, nous allons accueillir avec grand plaisir aussi pour la joie des dessinateurs et des gens qui aiment la PAO et le graphisme, notre ami Dimitri Robert, qui nous parlera de GIMP et d'Inkscape. Et qui sera suivi le lendemain par une conférence aussi de Laurent Charpentier sur GIMP. Donc une grande notion est donnée à tout ce qui est infographie, dessin, artiste, pour tous nos artistes.
Alors, aussi, la tech.
Oui, bien sûr.
La tech, alors L-A-T-E-X avec le L majuscule, le T en majuscule et le X en majuscule.
Oui.
Ne pas confondre avec du plastique ou du caoutchouc, hein, une autre idée, voilà. Du plastique, ça c'est un atelier aussi également. Peux-tu nous en parler un petit peu plus?
Je ne suis pas l'animateur de l'atelier, mais c'est un outil qui a été développé, si je ne m'abuse, par un physicien à la base et qui a la particularité de permettre de rédiger des documents avec une syntaxe formidable.
C'est un langage, en fait.
De rendre un document éditable dans ce que l'on voulait à la base, quel que soit l'imprimante qui passe derrière, hein, que ce soit un imprimeur, une table traçante, une imprimante classique. Si on a demandé une police en 6 de ceci, cela, on aura un rendu en 6 de ceci, cela, avec une vraie césure de mots, par exemple, des formules chimiques et mathématiques qui seront correctement rédigées, ce qui est très très important dans notre monde technique.
Alors, il faut dire que ça s'écrit textuellement, donc avec n'importe quel éditeur ASCII. Hein. C'était très utilisé dans le milieu universitaire. On sait toujours, très utilisé d'ailleurs, dans le milieu universitaire et ailleurs. Et c'était justement très utilisable sur des terminaux non graphiques, puisqu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Et ça s'apparente à un langage, en fait, un langage d'écriture de son document, avec un compilateur derrière, tech ou la tech, hein, qui est un dérivé, en fait, et qui permet donc des rendus très professionnels et surtout aux normes d'impression.
Et ça, ce qui est remarquable, c'est qu'il y a dû avoir à peu près, ça fait un peu plus de 20 ans que ce langage existe. Et il y a eu deux ou trois mises à niveau seulement pour corriger des bugs.
Tout à fait. Alors, après...
Contrairement à d'autres qui sont en perpétuelle refonte, celui-là a été pensé de manière... très intelligente dès le début.
Alors, ce qu'on peut noter aussi dans ce compilateur de texte, en fait, hein, c'est toute la subtilité des lettres françaises aussi en typographie, hein, les OE par exemple, les FI qui sont plus rapprochés que espacés, hein, dont le point est dans le F, etc. Donc, ces petites subtilités typographiques qui font justement que la tech est très professionnelle, permet aussi, par exemple, des éditions de textes, d'ouvrages de fortes pages, sans aucun problème. Hein, 500 pages en un clin d'œil, j'allais dire. Il faut quand même les écrire, mais c'est très, très puissant quoi, par rapport à
d'autres logiciels.
À d'autres logiciels, enfin, à d'autres logiciels qui...
langages qui permet de fabriquer un ouvrage, qu'il soit technique ou un simple roman, ou même un simple tutoriel pour comment utiliser Shell, comme je l'ai vu en suivant des ateliers, de manière très agréable, qui est éditable immédiatement de la même manière qu'un wiki, et qu'on peut remettre en ligne dans la seconde et permettre aux personnes qui suivent l'atelier de continuer... leur atelier sans problème. C'est vraiment quelque chose de très, très, très puissant. Je crois aussi que ce que j'ai oublié de dire, c'est que nous, en dehors d'un projet dont je parlerai ensuite par rapport à Linux Azure, mais pour revenir sur le thème des JM2L, j'ai oublié que cette année, compte tenu, comme d'habitude, mais compte tenu du fait que cette année nous recevons les lycéens, nous avons abordé le thème éducatif d'une manière plus prononcée avec trois conférences. Une qui concerne EDUC-OO for Kids et OOLight, le projet OLPC et la création d'un groupe de travail pour l'apport en logiciel libre dans les écoles. Trois projets très importants, hein, sur le plan éducatif. Alors, ils viendront en complément, bien sûr, de la table ronde sur l'éventualité des rencontres mondiales du logiciel libre en région PACA aux environs de 2013, dirons-nous, pour donner un horizon proche.
Alors, juste pour revenir à la partie éducation, notamment avec EducOOO, vous l'aurez compris, les aficionados de OpenOffice, avec le triple O, ou OOO for Kids ou OOO Light. Donc, c'est un projet orienté, un projet d'OpenOffice orienté éducation pour qui s'adresse donc aux élèves des écoles primaires, voire collèges.
Alors, O4Kids, oui, est résolument tourné vers les petits dès l'âge de 6 ans, puisque c'est dès l'âge du cours préparatoire. Hein, enfin, quant aux autres, ils sont orientés éducation, et si je ne dis pas bêtise, O-Light est une version, on va dire...
légère.
Pour voilà, qui se veut léger, mais allégé, ce qui n'empêche nullement de remettre dans les menus toutes les fonctions existantes de la version complète, mais qui permet à l'utilisateur lambda de ne pas se trouver dérouté par des fonctions dont il n'a pas l'usage de prime abord.
Je te propose de faire une petite pause musicale avant de te retrouver, de poursuivre ce décortiquage des journées méditerranéennes du logiciel libre, donc qui se passeront la semaine prochaine du côté de Nice.
Sophia
Antipolis, pardon.
C'est pas loin de Nice, c'est bien
je
le
sais,
préciser,
je sais. Justement. On n'est pas très loin de Nice, on n'est pas... Après, on s'en va vers Antibes.
Oui, c'est ça. La gare la plus proche est Antibes.
Voilà. Donc, une petite pause musicale avec notre album, justement, qui fait le fil conducteur de cette émission, pardon. C'est Coochie Band. C'est des artistes de jazz. Ils sont sur le label Le Vieux Chêne, en licence Creative Commons by NC Andy. Et on va écouter Donne-moi 5.
Thank you.
de, ça c'est le nom du groupe, l'album Bon Débarras, on écoutait Donnement 5, un album sous licence Creative Commons by NC Andy, réalisé sous Linux d'ailleurs, Ardour, distribution Ubuntu 64 Studio, GIMP et avec le support de Linux MAO que vous pouvez aussi retrouver sur leur label. Le chêne vieux. Vous êtes toujours sur Divergence numérique et non pas sur Par ici les sorties ou ça va jaser pour nos amis qui nous écoutent sur le 93.9 de Divergence FM ou sur Radio Escapade 104.103.3, mais bien dans Divergence numérique. On parle de logiciels libres et plus particulièrement des journées méditerranéennes du logiciel libre avec sa présidente, la présidente de Linux Azure, et chargé de communication en la personne de Véronique Fritière. Rebonsoir.
Et rebonsoir. Alors, je te remercie de nous avoir permis de faire connaître un peu mieux les JM2L auprès du grand public qui vous écoute, et j'espère qu'il vous est très fidèle.
C'est vrai, on est écouté déjà par chez nous, évidemment, et puis à travers le net aussi, hein, nos amis belges, nos amis québécois, nous avons des liens assez forts avec eux, donc ça va jusque là-bas, tu vois. Et puis tous ceux qui nous écoutent à travers le net, sans le savoir, disons, sans que nous le sachions. En tout cas, merci à vous.
J'espère qu'une... on vous avait invité, mais j'espère qu'une autre année, vous aurez... le loisir de vous rendre jusque chez nous. Vous verrez que la Méditerranée, c'est pas mal de notre côté.
Bon, on la connaît aussi un peu aussi.
Eh oui.
On est plus près du sud. Non, je rigole.
C'est normal entre sudistes. Je voulais aussi parler, parce que j'ai raconté un peu que nous avions des ateliers, des conférences avec des thèmes, avec... des personnalités, avec, pour les JM2L en particulier. Je crois qu'il est important aussi, puisqu'on a cité déjà nos partenaires, de rappeler aussi que des personnes vont se déplacer pour tenir un stand. Pour l'instant, je n'ai pas eu confirmation, mais nous devrions avoir... très certainement, Mozilla, Pearl, April, et tout ce qui s'inscrit au fur et à mesure sur le site, parfois à notre insu, puisque ça se remplit tout seul, ce qui est très très agréable. Hein, chaque année, nous avons bien sûr, nous avons tous nos amis de la région, comme l'Axul, le Plug, qui sont de Marseille, d'Aix, etc., qui viennent tenir un stand mutualisé, qui permet à chacun de se rencontrer, d'échanger, de s'entraider aussi, comme nous le faisons chaque année. Nous leur rendons visite pour leur journée du libre, les rencontres de l'Orme. J'en passe et j'en oublie parce qu'on participe à énormément de manifestations. Les JM2L ne sont pas une invention née d'une... comme ça. En fait, il faut en remercier à l'origine Michael Obdenacker de la société Free Electron, qui est un ancien Lyonnais qui nous a fait découvrir la journée du libre de l'Aldil, les amis qui ont construit les fiches du libre et qui nous rendent service chaque jour grâce à leur savoir et qu'ils ont su mettre par écrit pour le bienfait de tous. Et j'avoue que ça a été très agréable de les rencontrer à l'époque pour écouter leurs trucs et astuces et essayer de les mettre en place pour nos autres journées du libre. Donc, si quelqu'un a quelque chose à apprendre, je leur recommande d'aller leur rendre visite.
On rappelle que les journées du méditerranéen du logiciel libre donc, se tiennent le vendredi 26 novembre de 14h à 19h et le samedi 27 novembre, le lendemain, de 10h à 19h à l'école Polytech Nice, Sophia Antipolis, 930 route des Cols, sur le site Templier à Sophia Antipolis. Justement, comment s'organisent ces journées méditerranéennes du libre, puisque c'est déjà la 5e édition. Vous avez sans doute pu voir une évolution et puis vous aussi évoluer sur l'organisation entre la première et celle-là?
Au départ, nous étions 4 bénévoles. Au fil du temps, nous avons nommé un responsable des événements qui s'appelle Christophe Desclos, qui lui-même a su mettre en place au sein de Polytech une équipe d'étudiants qui sont très actifs et qui organisent tout ce qui est logistique, qui aide à justement récupérer et rencontrer les médias, les radios, les journaux, tout type de médias et journalistes, qui nous aident également de manière physique. Il y a les gens qui aussi nous aident en servant de relais entre les gares et les aéroports pour ramener, ceux qui aident pour héberger ces gens-là.
Vous inspirez,
qui aident à la rédaction. Enfin, il y a des aides de toutes sortes. C'est depuis que Christophe Desclos a pris la responsabilité de cet événement en particulier. Il a su dynamiser une équipe et il dirige 9 étudiants qui s'activent joyeusement pour nous rendre la vie plus facile.
Vous êtes en discussion ou vous discutez avec d'autres qui organisent aussi des événements similaires,
oui,
comme justement les rencontres mondiales du logiciel libre, dont une table ronde sera faite pendant,
oui,
ces JM2L.
De président en président successif, nous avons fait partie des listes des comités d'organisation des RMLL. Et nous avons relancé cette année le comité en leur expliquant que nous faisions les JM2L et qu'à cette occasion, nous souhaitions nous entretenir sur l'éventualité des RMLL à partir de 2013.
Et puis c'est 2011, 2010 c'était à Bordeaux, 2011 c'est à Strasbourg, 2012 c'est Liège.
Oui, du côté de Liège.
Du côté de Liège.
Pour faciliter, mais...
2013,
2013, pourquoi pas à la PACA.
Chez vous, à Nice, à Sophia Antipolis.
Et pourquoi pas avec le concours de tous ceux qui voudront bien mettre la main à la pâte. Et puis, comme je disais, deuxième table ronde importante, Linux dans les écoles, parce que plutôt... on met les enfants sur nos distributions. Certaines sont faites pour dès l'âge de 3 ans, hein, comme Doudou Linux. C'est le meilleur moyen de leur faire comprendre notre philosophie.
Tout à fait. Et en plus, sans trop payer de licence. Hein.
Exactement.
En plus. Et donc, on parle plutôt d'un, peut-être pas à 3 ans, mais de traitement de texte que de produits. Hein,
Ah oui, mais dès 3 ans, ils peuvent déjà commencer à jouer et à développer une logique
tout à fait, oui,
qui est très importante pour leur développement psychomoteur.
En tout cas,
non négligeable pour nos amis de l'éducatif.
Donc on précise, hein, les journées méditerranéennes du logiciel libre à Sophia Antipolis, vendredi 26 et samedi 27 novembre. Vous avez toutes les informations sur jm2l.linux-azure.org. Je te remercie, Véronique.
C'est moi qui te remercie, Pascal.
Voilà. Et on se dit sans doute à bientôt. Et puis tiens-nous au courant de vos événements et puis comment ça s'est passé. Sans doute, j'aurai l'occasion de te revoir dans l'émission pour avoir une sorte de petit débriefing.
Si, avec grand plaisir.
Voilà. Je te remercie. À bientôt.
À très bientôt. Merci. Au revoir.
Et oui, Véronique Fruitière, donc de Linux Azure. On va, comme il est bientôt l'heure, on va passer à notre agenda du libre avec petite musique de fond de générique. Alors, agenda du libre, c'est agendadulibre.org, où c'est que j'ai mis mon signé parmi tous les... Voilà, agendadulibre.org. Qu'est-ce qu'on peut noter ? On peut noter à Téhéran le 19 du côté de chez nous des ateliers libres, PAO, MAO. à Digne-les-Bains, un petit déjeuner, gérer son entreprise ou son association avec des logiciels libres, des install-parties le 20, le samedi 20 à Marseille, de la cartographie ou de la carto-partie avec OpenStreetMap à Plourin. Plus près de chez nous, quand même, à Castelnau-le-Lez, le 23, des ateliers libres de Montpellier, section GNU/Linux. À Toulouse, 4e quelconque jeudi, jour du libre toulousain. Également le 25, c'est les derniers jeudis à Montpellier qui se passeront au Baloir. Et peut-être Divergence Numérique sera en direct du Baloir. Allons donc savoir, en tout cas. Vous retrouvez tout ça sur agenda-dulibre.org. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. Merci de rester libre. Et puis, n'hésitez pas à soutenir justement Framasoft qui en a bien besoin. En tout cas, je vous dis à bientôt et bonne semaine. Nuclear weapons of mass destruction. They will not hesitate.